Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Herpès, varicelle, zona. Ces trois maladies appartiennent à la grande famille des herpès virus. Deux virus provoquent l'herpès labial ou génital. Un troisième est co-responsable de la varicelle ou du zona. Des maladies contagieuses, bénignes le plus souvent, parfois spectaculaires dans leur phase aiguë. Pour certains individus, ces maladies virales peuvent s'avérer particulièrement graves ou douloureuses, notamment en fonction de l'âge ou de l'immunité, avec une vigilance particulière aussi lorsqu'elles touchent des femmes enceintes. Des maladies que chacun rencontre au cours de sa vie, directement ou au sein de son entourage. Pourtant, beaucoup d'idées fausses circulent à leur sujet, sur la contagion comme sur les complications, les risques pulmonaires liés à la varicelle qu'il ne faut pas négliger. Dans le cas du zona, une attention particulière en fonction de la partie du corps où les lésions apparaissent. Attention particulière aussi à la prise en charge des douleurs neurologiques qui peuvent suivre ou accompagner l'éruption et devenir, dans certains cas, chroniques. Gros plan sur ces trois maladies liées aux herpès virus avec nous en studio, docteur Pascal Matelier-Fusade, bonjour.
Bonjour.
Dermatologue, allergologue à l'hôpital Tenon à Paris. En deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons en ligne de Guinée le docteur Mohamed Massiré Souma, dermatologue vénérologue au CHU de Conakry, enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser, toujours à Conakry. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Bien sûr, on attend toutes vos questions au standard de Priorité Santé. Pour nous joindre, toutes ces questions, ce sera au 33 84 22 75 75. Docteur Pascal Matelier-Fusade, herpès, varicelle, zona, trois maladies qui ont plusieurs points communs. Le premier, ce sont ces vésicules, ces boutons, ces plaques. On les appelle différemment en fonction de notre âge, de notre milieu, du lieu où on habite. En tout cas, tous ces petits boutons, ce sont des lésions de la peau et il faut d'abord veiller à ce qu'il n'y ait pas de surinfection.
Alors oui, tout à fait, parce qu'en plus, ces petites vésicules sont excessivement fragiles et elles ont souvent tendance à vouloir nous brûler ou nous démanger. Et donc, en grattant, on risque d'infecter ces petites lésions et notamment d'infecter avec des bactéries.
Alors, des vésicules, des petites cloques, c'est quoi exactement le liquide qu'il y a dans ces petits boutons, docteur Matelier-Fusade?
Alors, c'est du liquide qui, en fait, contient les virus, invisible, bien évidemment, à l'œil nu. Et donc, de fait, comme ça contient les petits virus, c'est clair au départ, et justement, il faut pas les gratter parce qu'on va pouvoir disséminer ces lésions un peu partout et les transmettre.
Alors, un premier conseil pratique, justement, pour éviter la surinfection, quel type de produit utiliser? Je ne suis pas très vieille, mais quand j'étais petite, on utilisait des solutions de couleur. Maintenant, c'est un petit peu passé de mode. Alors, pourquoi passer d'un produit invisible, un produit coloré? C'est quoi exactement derrière cette différence?
Bon, probablement, il y a un effet de mode et on supporte pas trop que maintenant, on se devienne violet ou rouge lorsqu'on veut mettre un antiseptique. À l'époque, je pense que c'était des très bons antiseptiques. Simplement, c'est un peu passé de mode à cause de leur couleur, d'ailleurs.
C'était de l'éosine, par exemple. Mais même avant, le mercurochrome, là, qui est carrément interdit, c'est différent.
Le mercurochrome, la solution de Millian, qui était un petit peu bleue. Et donc, maintenant, on a des antiseptiques qui sont parfaitement incolores. Et puis, surtout, les antiseptiques anciens pouvaient être alcoolisés. Donc, ça piquait, surtout si on avait une érosion cutanée.
Alors, il y a des rares cas pour la varicelle où il n'y a quand même pas de boutons, pas de manifestations cutanées. Docteur Pascal Matelier-Fusade, dans ces cas-là, comment on sait qu'on a développé la maladie?
Bonne question, parce qu'il y a visiblement des gens qui vont peut-être faire une petite vésicule qui passera complètement inaperçue. En fait, on saura qu'ils auront fait rétrospectivement la varicelle lorsque des années plus tard, ils feront un zona.
Alors, Le zona, on va en reparler, justement, le lien entre ces deux maladies. Vous avez dit tout à l'heure, dans les petites vésicules, il y a ce fameux virus qui peut se répandre. Il s'agit d'un herpès virus. C'est là aussi un point commun, au-delà, bien sûr, des manifestations cutanées entre ces trois maladies. Herpès virus, docteur Pascal Matelier-Fusac, trois maladies, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres qui sont liées à ce fameux virus.
Alors, c'est une grande famille. Ils ont en dénominateur commun le nom d'herpès virus, mais effectivement, lorsqu'on parle, nous, de cytomegalovirus, c'est également dans la même famille. Lorsqu'on parle d'Epstein-Barr virus, on est également dans la même famille.
Le nom de la mononucléose, quand les gens...
Le nom de la mononucléose, voilà. Mais quand on parle vraiment, quand on parle d'herpès virus, nous, on entend essentiellement, donc, le zona, la varicelle, cette fois-ci le même virus, et puis l'herpès à côté.
Alors, en général, la varicelle, on dit maladie infantile, c'est dans tous les carnets de santé. Il y a même une éviction pour les enfants à l'école quand ils sont porteurs de la varicelle, que ce soit à l'école ou à la crèche. Maladie infantile, ça veut dire que quand son enfant l'attrape dans ses premières années, s'il n'y a pas de complications, il n'y a vraiment pas matière à s'inquiéter.
Non. Si l'enfant est en bonne santé, s'il n'est pas malade, d'avoir une maladie grave, donc qu'il soit immunodéprimé, il n'y a aucun risque. Bon, après, le risque est plutôt l'éviction de la crèche ou de l'école, qui peut poser des problèmes avec les parents, des parents qui travaillent, et puis la contagiosité. En sachant qu'effectivement, dès qu'il a ses petites vésicules, il est contagieux, mais en fait, l'incubation a eu lieu un petit peu avant. Donc, c'est comme ça que des épidémies se forment.
Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait recourir à cette désinfection locale. Ça veut dire qu'on prend pas, on donne pas de médicaments à l'enfant, sauf s'il a une manifestation fiévreuse.
Alors, on va donner, s'il a de la fièvre, effectivement, on donne ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on a des symptômes et on va donner des médicaments contre les symptômes. Donc, s'il gratte, alors si ça gratte, effectivement, on va pouvoir donner des fois des antihistaminiques. Alors, les antihistaminiques vont peut-être pas forcément très bien marcher, mais il faut savoir que chez l'enfant, les antihistaminiques font dormir, et comme les enfants vont dormir, ils vont moins se gratter.
Et il y a par contre un médicament à éviter quand on a la varicelle.
C'est l'aspirine.
Voilà.
L'aspirine, parce que ça peut donner ce qu'on appelle le syndrome de Reye, qui est une maladie grave avec une atteinte neurologique. Donc, lorsqu'on suspecte la varicelle, il vaut mieux donner du doliprane, du paracétamol.
Alors, on va revenir sur ce fameux couple varicelle-zona. Vous avez dit tout à l'heure, dans de rares cas, quand il n'y a pas de bouton pour la varicelle, quand quelqu'un a développé un zona, c'est donc qu'il a eu, sans le savoir, ou sans qu'il s'en souvienne d'ailleurs, puisque ça peut être dans la prime enfance, une varicelle. Comment justement cet ancien virus de la varicelle dort-il et se réveille-t-il transformé, un petit peu comme dans un conte de fées, mais c'est pas un conte très heureux, en zona? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est toute la magie du corps humain, parce que lorsqu'il y a eu... Donc c'est un virus qui adore les petits ganglions et le système nerveux. Et donc ce virus, une fois qu'on aura eu la varicelle, va se loger dans un ganglion, alors à différents endroits au niveau du corps. Et il va rester bien là, bien tranquillement, des années. Et sous l'effet... d'un état de fatigue, d'une immunosuppression, d'une maladie, en fait, ce virus va se réveiller et va, à ce moment-là, donner le zona.
Et en général, il se localise où, ce zona, docteur Matelier-Fusac?
Alors, se localise, alors c'est toujours très, très amusant à voir, parce que le diagnostic, il est clinique. Le virus, donc, se logeant dans un ganglion, il va aller se loger dans un ganglion, souvent au niveau de la colonne vertébrale, et donc, il va choisir s'il va se répandre à gauche ou à droite du corps. Et donc, on va avoir des bandes de lésions, de petites vésicules qui sont bien délimitées. On va même pouvoir savoir rétrospectivement où ce virus se localisait en fonction de la localisation de l'éruption. Donc, généralement, on a soit une hémiceinture, un hémithorax. Sur le visage, ça donne des complications. On peut avoir soit l'atteinte à gauche du visage, soit l'atteinte à droite du visage. Et c'est toujours sur un bras ou sur l'autre bras, mais jamais les deux.
Alors justement, vous disiez ce visage zone sensible, où il peut y avoir justement des risques, en particulier dès qu'on s'approche de l'œil.
Exactement, c'est ce qu'on va appeler le zona ophtalmique. Alors là, c'est une urgence, hein, puisque l'atteinte, on va dire, dès qu'on va voir que le zona atteint la partie supérieure du visage d'un côté ou de l'autre, il y a un risque d'atteinte de la paupière et surtout de la cornée. Et dans de rares cas, on peut aboutir, s'il n'est pas traité, à un déficit de vision.
Et justement, ces complications, on l'a dit, en fonction de la localisation de l'éruption, des lésions, également un facteur très important, c'est l'âge. Plus on est âgé et plus souvent on a du mal à se remettre de ce zona, docteur Pascal Matelier-Fuzat, comment on l'explique ?
Alors ça, on pense que c'est probablement une baisse d'immunité, mais c'est vrai que les patients plus âgés, ceux qui vont avoir un zona à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, auront peu de risque d'avoir des douleurs persistantes, alors que plus on avance en âge, plus ce risque grandit. Et effectivement, toutes les douleurs, on va appeler ça des douleurs post-zona, des douleurs post-zostériennes, sont beaucoup plus fréquentes chez les sujets âgés.
Docteur Pascal Matelier-Fuzat, vous restez avec nous. Hein. Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et justement, c'est une auditrice, c'est Loïka. Elle nous appelle du Congo-Brazzaville, de Brazzaville justement. Bonjour Loïka.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors moi, j'ai ma fille de 15 mois et je suis consciente qu'il y a la varicelle, la guêpe et tout. Donc je voudrais savoir quel est le comportement que je devrais avoir parce que je n'ai jamais eu affaire à cette maladie parce que c'est ma première fille. Et je voudrais savoir quelles sont les méthodes de prévention pour que je sache comment me comporter avec elle ou face à la maladie.
Docteur Pascal Matelier-Fuzat, est-ce qu'il y a vraiment des mesures de prévention pour la varicelle, pour un petit enfant ?
Ah bah déjà, je pense qu'il faut rassurer cette auditrice, hein, parce que effectivement, échapper à la varicelle, ça semble bien difficile, hein, puisque c'est vraiment, il y a des épidémies. Si sa petite fille de 15 mois, même si elle est toute petite, est en bonne santé, elle aura des petits boutons, des petites vésicules, mais aucun risque de gravité attendu. On fera sûrement attention, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, de plutôt donner du doliprane plutôt que de l'aspirine si elle a un petit peu de fièvre. On surveillera ses petites lésions et puis on les soignera et on empêchera que ces petites lésions démangent.
Loïka, j'ai une question autour de vous. Il y a certainement d'autres mamans, elles aussi ont des enfants. Ces enfants ont été atteints de la varicelle. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de complications majeures de cette maladie. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Comment ça se fait que vous posez ces questions ? C'est pour toutes les maladies, pour votre petite fille ?
Oui, en fait, je n'ai pas eu quelqu'un de proche qui a eu ce problème-là. Donc, je ne sais pas exactement comment réagir. C'est surtout ça, mon inquiétude.
Alors, justement, docteur Pascal Matelier-Fuzat, au nord, on va dire en Europe, c'est très fréquent que les bébés, on peut dire 90%, hein, il n'y a pas de statistiques forcément, mais c'est très fréquent que les bébés développent une varicelle, beaucoup moins dans les zones tropicales. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, je pense qu'honnêtement, non. Ça, c'est vrai. C'est un fait. Donc, c'est pour ça que nous, en Europe, on va rassurer la maman. Parce que c'est tellement fréquent. Moi, j'ai deux filles. Mes deux filles ont eu la varicelle. Qui devait avoir à peu près vers l'âge de 2 ans. Et ce qui est très, très, très fréquent. Et la seconde, un peu plus tard, de façon étonnante, pensant qu'elle l'avait déjà eue petite, qu'on l'avait pas vue.
Et justement, on voit très souvent ces petits enfants qui ont des petites marques de varicelle. C'est devenu quasiment une habitude. Et les gens prennent ça, finalement, avec beaucoup de philosophie. Parce que c'est pratiquement tous les enfants qui ont des petites lésions, mais qui sont vraiment minimes sur le visage.
Ben exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça peut inquiéter Loïka parce que c'est moins fréquent visiblement à Brazzaville, mais en tout cas pas d'inquiétude.
Loïka, vous êtes rassurée ?
Oui, ça va beaucoup mieux, merci.
C'est très gentil. Bonne journée à vous à Brazzaville. On va prendre en ligne Michael qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Michael.
Bonjour.
On écoute votre témoignage.
Bon, moi, je souffre d'une herpès. J'ai souvent des boutons par intermittence au niveau de la lèvre, dans la bouche, ou alors sous la langue. Des petites plaies. Et très souvent, des boutons comme ça regroupés au niveau du pénis. Donc, ça vient un peu par intermittence. Ça peut venir aujourd'hui. et venir 2 semaines après, ainsi de suite. J'ai vu des médecins pour ça, mais bon, ils n'ont pas de traitement approprié. Il me demande de changer le type de caleçon, de changer peut-être la matière du caleçon, de changer le type de brosse à dents, de faire des choses vraiment, en fait, qui n'ont rien à voir avec un traitement adéquat, en fait.
Vous attendez des conseils, docteur Pascal Matelier-Fuzade, des conseils ponctuels hein, que ces médecins donnent à Mickaël, d'ailleurs davantage peut-être des conseils d'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour le cas de l'herpès génital pour limiter la récidive?
Alors, pour limiter la récidive, on a des traitements, on va dire, en antiviraux, qui sont essentiellement des traitements par voie orale. Et c'est vrai que si les lésions se répètent de façon très importante, on peut être amené à en donner régulièrement. Il faut bien savoir également, il faut bien dire à l'auditeur que malheureusement, on ne guérit pas. On va traiter la poussée, on va empêcher qu'il y en ait trop, mais se débarrasser définitivement de l'herpès, c'est quelque chose qui aujourd'hui est impossible. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir du moment où on a ces petites vésicules, on est contagieux. On est contagieux pour soi. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-contaminer si par exemple au niveau de la bouche on va aller triturer ces petites vésicules et après se gratter au niveau du front un petit peu d'autres parties du corps, on peut déjà donc s'auto-inoculer l'herpès et puis surtout on est contagieux. Donc là aussi c'est des mesures de prévention pour soi pour pas aggraver les symptômes et puis pour les autres pour pas contaminer.
Voilà cette réponse, Mickaël. En tout cas, vous l'avez compris avec les explications du docteur Matelier-Fuzade, c'est important justement ces conseils d'hygiène, simplement pour éviter la récidive. Merci beaucoup pour cet appel de Libreville au Gabon. On va prendre un dernier appel avant l'actualité, avant le flash d'information. On appelle le Burkina Faso, dans la ville de Zignaré. C'est Adama qui est en ligne, j'ai inversé les deux. C'est pas très habile de ma part. Bonjour Adama.
Oui, bonjour.
On écoute votre question Adama.
Et voilà, quand j'étais adolescent, entre 15 ou 16 ans, et j'ai eu la varicelle. Voilà, ma question était de savoir, est-ce que cela m'immunisait pour le restant de ma vie? Parce qu'il y a des gens qui disent que quand on a déjà fait la varicelle, on ne peut plus jamais la voir. Je voulais savoir si c'est vrai.
Alors cette réponse, docteur Matelier-Fuzade, je crois que vous allez lui dire.
Bah oui, a priori vous ne l'attraperez plus. Hein. C'est si le virus se réveille, vous aurez plutôt un zona, mais vous ne referez pas une deuxième fois la varicelle.
Voilà, cette réponse très, très claire du docteur Pascal Matelier-Fuzade. Ça veut dire que si vous développez un zona, c'est parce qu'avant, vous avez eu justement à cet âge de 15 ans la varicelle. Je vais prendre une question Facebook justement d'une auditrice du Gabon de Libreville. C'est Audrey, elle nous dit « Je souffre d'herpès, est-ce qu'il y a un traitement efficace pour l'éradiquer ?» Ce qui est dommage, c'est que dans son message, elle nous a pas dit si c'était vraiment de l'herpès labial ou génital. En tout cas, on a entendu tout à l'heure qu'il y avait des traitements, mais que c'était l'hygiène qui était absolument primordiale. S'agit-il d'un traitement à vie? Est-ce qu'il y a un risque d'infertilité? Je vous laisse répondre là-dessus, docteur Pascal Matelier-Fuzade.
Alors surtout là, il faut vraiment rassurer l'auditrice. Hein. C'est il y a aucun risque d'infertilité en ayant soit de l'herpès, soit le varicelle, soit le zona. Aucun risque.
Aucun rapport entre les deux. Mais on va le voir tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On peut peut-être en dire déjà un mot sur le cas particulier de l'herpès génital. Par contre, pour la femme enceinte, il y a des précautions, il y a des mesures à prendre.
Alors évidemment, à partir du moment où lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle signale avoir de l'herpès génital, je pense que cette femme va être relativement bien surveillée parce qu'il y a un risque d'une part pour elle, mais surtout pour le bébé. Et donc, il y a souvent des surveillances assez rapprochées et s'assurer que le bébé n'attrape pas de l'herpès au moment, en tout cas, de sa naissance.
Au moment de l'expulsion, ça peut d'ailleurs, dans certains cas, décider d'aller plutôt vers une césarienne que plutôt par un accouchement par voie basse.
Tout à fait, pour pas que l'enfant soit contaminé par la filière lors du passage par voie basse, oui.
Merci beaucoup. On va se retrouver dans 3 minutes, docteur Pascal Matelier-Fuzade, toujours pour parler de l'herpès virus. herpès varicelle zona. Le numéro de l'émission, hein, vous pouvez continuer à nous appeler, à vous poser toutes ces questions, 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à trois maladies liées à l'herpès virus. Toujours avec nous en studio, le docteur Pascal Matelier-Fusade, dermatologue allergologue à l'hôpital Tenon à Paris. On a évoqué tout à l'heure avec vous, docteur Matelier-Fusade, et avec les auditeurs de Priorité Santé aussi, les symptômes, certaines complications des pathologies varicelle zona, surtout en première partie d'émission, provoquées donc par un seul et même virus. On va parler maintenant plus particulièrement de l'herpès, la maladie herpès labiale ou génitale. On est là face à un seul virus qui se décline sous plusieurs manières. En fait, il y en a deux dans un. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Vous allez tout nous expliquer maintenant.
Oui, alors en fait, il y a deux virus qu'on appelle alors chez nous herpès simplex 1, herpès simplex 2. En sachant que l'herpès simplex 1, lui, va plutôt infecter la partie supérieure du corps et l'herpès virus 2 va plutôt infecter la partie basse du corps. Alors, ça va être... Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais on va dire que lorsqu'on a un bouton d'herpès au niveau, mettons, du visage, dans 90% des cas, ça sera l'herpès virus 1 qui nous contaminera, et dans 10% des autres cas, l'herpès virus 2. Et puis, inversement, partie basse du visage, c'est essentiellement herpès virus 2, et dans de rares cas, herpès virus 1, en sachant que quand c'est le 1, c'est plutôt la contamination, et c'est là où c'est important la prévention, c'est surtout la contamination de propre du patient qui, en grattant ses boutons au niveau de la lèvre, va se contaminant en touchant ses organes génitaux.
Tout à l'heure, on avait un auditeur qui souffrait des deux manifestations sur le corps, donc labiale et génitale. Ça ne veut pas dire forcément qu'il avait les deux virus. Il pouvait en avoir un qu'il avait déplacé d'un endroit vers l'autre.
Tout à fait. Alors, on peut avoir le même virus sur deux zones distinctes du corps, comme on peut avoir deux virus sur les deux zones distinctes du corps.
Alors, l'herpès génital est classé parmi les IST, docteur Pascal Matelier-Fusat. Donc, pour éviter sa transmission, on va employer les mêmes précautions que pour les autres maladies sexuellement transmissibles.
Ah oui, tout à fait. Donc, l'herpès virus, alors là où c'est toujours très difficile, c'est qu'il y a, on pourrait appeler ça pratiquement des porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui sont infestés par l'herpès virus, qui ont des récurrences, mais qui sont complètement asymptomatiques. Ce sont des gens qui n'ont pas de symptômes et qui vont, eux, contaminer des sujets qui, eux, à l'inverse, vont avoir des symptômes. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas de symptômes, on peut strictement rien faire, malheureusement, parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Et lorsqu'on a des symptômes, par contre, là, c'est toujours pareil, c'est désinfecter, ne pas avoir de, notamment pour l'herpès virus 2, au niveau des organes génitaux, ne pas avoir de rapport sexuel, justement, pour ne pas contaminer un partenaire. Et c'est toujours la prévention, de toujours faire attention. Et donc, dans le cas de l'herpès virus 2, de se méfier également, parce que ça reste considéré comme une maladie sexuellement transmissible, de se dire, est-ce qu'on est à risque d'autres maladies sexuellement transmissibles.
Alors, justement, c'est important ce que vous venez de nous dire, par exemple, pour un couple. Si, par exemple, je mets le cas A, une femme développe un herpès génital, son mari n'a pas de signe extérieur. Ça ne veut pas dire que cette femme a attrapé cet herpès en dehors du couple. Ça peut être transmis aussi par son époux.
Ah oui, oui, donc ça peut poser des soucis conjugaux, disons-nous, parce que il faut jamais oublier que ce type d'herpès, ces herpès virus-là peuvent être complètement asymptomatiques et néanmoins être parfaitement contagieux et donc contaminer des gens qui vont, eux, avoir des symptômes.
Alors, docteur Pascal Matelier-Fusat, pour l'herpès labial, cette fois, certains parlent de feu sauvage, hein, notamment au Québec, la transmission se fait essentiellement par contact et simplement en s'embrassant.
Tout à fait, en s'embrassant et là aussi, on va dire en précaution, quelqu'un qui, par exemple, qui a donc le feu sauvage ou le bouton de fièvre, donc l'herpès virus 1 au niveau des lèvres, lorsque les petites vésicules apparaissent, éviter d'embrasser les gens, surtout pas les bébés, les petits enfants, parce que effectivement, ils sont contagieux. faut toujours se souvenir que dans les petites vésicules transparentes que l'on voit, il y a plein d'herpès virus dedans. Donc, et comme c'est des petites vésicules toutes fragiles, elles vont facilement s'éroder et donc créer des croûtes. Et là, on est toujours contagieux. Jusqu'à la disparition des croûtes, on est contagieux.
Et les gens qui ont de l'herpès labial, ces boutons de fièvre, constatent que souvent, ça apparaît dans certaines circonstances, des émotions, et en particulier le soleil. Alors, par exemple, est-ce que mettre un baume sur ses lèvres, un baume un protecteur pour les rayons solaires, ça permet d'éviter, c'est une mesure de prévention efficace. Écran total, j'ai trouvé le terme.
Oui, alors par exemple, quand il y a de grands soleils, alors nous, en France notamment, quand on va à la montagne en vacances l'hiver, on va dire aux patients de s'équiper d'un stick solaire avec un écran total. Ça va diminuer le risque d'avoir une survenue de ces boutons d'herpès, parce que c'est excessivement fréquent, à la seule condition qu'ils en appliquent plusieurs fois dans la journée.
Autre question, pourquoi sous le coup de certaines émotions, l'herpès labial sort, comment ça se fait?
Alors ça c'est toujours le mystère, mais enfin on dit que la peau c'est le miroir de l'âme, donc il y a quand même beaucoup de maladies de peau qui vont apparaître, réapparaître ou émerger avec un épisode de stress ou de fatigue, mais au même titre que notamment pour l'herpès, il y a des femmes qu'on appelle ça donc un herpès cataménial, qui vont avoir leur poussée d'herpès essentiellement pendant les règles, donc ça veut dire qu'elles vont avoir ça tous les mois.
Bon, ben là, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la vie. Vous restez avec nous, docteur Pascal Matelier-Fusade. On va maintenant partir pour la Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Et à Conakry, nous sommes en ligne avec le docteur Mamène Massiré-Souma. Bonjour, docteur Massiré-Souma.
Bonjour, madame.
Vous êtes dermatologue, vénérologue au CHU de Conakry, enseignant-chercheur à l'université Gabal Abel Nasser. Docteur Mohamed Massiré-Souma, est-ce que certaines populations sont davantage touchées par ces trois maladies dont on vient de parler depuis le début de l'émission, herpès, zona et varicelle?
Alors, pour répondre à votre question, d'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez. Alors, quand nous prenons ces trois pathologies, d'abord, la varicelle, il n'y a pas de population prédilective. Mais actuellement, la tendance, cette infection est beaucoup plus fréquente chez les personnes infectées par le VIH.
J'ai une question ponctuelle, docteur Mohamed Massiré-Souma. On constate qu'en Europe, pratiquement tous les enfants attrapent dans les premières années cette fameuse varicelle. Est-ce que c'est la même chose chez vous à Conakry? Et comment on explique peut-être que en Afrique, dans les régions tropicales, la varicelle soit moins fréquente?
Alors, peut-être c'est une idée reçue, mais il faut savoir que la varicelle est aussi fréquente chez nous.
Donc c'est une idée reçue, très bien.
Voilà, c'est une maladie qui est fréquente chez nous et c'est une maladie qui est très bien connue dans nos communautés. Et quand vous prenez toutes les régions de chez nous, pratiquement les populations connaissent très bien cette maladie. Parce que la varicelle, comme on le dit, reste une maladie bénigne obligatoire chez l'enfant.
Donc c'est...
Et surtout que...
Oui. Oui, je vous écoute, pardon.
Alors, surtout que chez nous, il n'y a pas encore de vaccination pour cette maladie. Du coup, ça devient une maladie fréquente chez les enfants. Et d'ailleurs, cela fait que la prévalence chez l'adulte devient très faible.
Docteur Pascal Matelier-Fusade, ici en France non plus, on ne vaccine pas contre la varicelle. On considère que finalement, les enfants l'attrapent et c'est comme ça.
Alors ça, c'est en train de changer parce qu'effectivement, sous la pression entre guillemets sociale, il y a avoir plus en plus d'enfants à qui on va proposer le vaccin
contre la varicelle. Alors, est-ce que vous avez été confronté lors de vos consultations à des complications, certaines formes graves de ces différentes maladies par herpès virus, docteur Mohamed Massiré-Souma?
Nous recevons des cas de complications. Quand vous prenez par exemple l'herpès, on peut avoir des ulcérations délabrantes qui peuvent traîner. Ensuite, chez les personnes vivant avec le VIH, lorsque les récidives sont fréquentes, cela peut altérer la qualité de vie des patients et parfois même être à l'origine des problèmes dans les couples. Alors, si nous prenons la varicelle, c'est surtout chez l'adulte où les complications sont fréquentes. Alors, parce que la complication la plus fréquente chez l'adulte, c'est surtout la pneumopathie variceleuse. Alors, comme cette maladie est rare chez l'adulte, donc quand ça survient, il faudra prendre beaucoup de précautions. Par exemple, nous avons fait un travail là-dessus où nous avons publié 42 cas de 2000 à 2010 dans les annales de dermatologie en 2014. Et donc, dans ce travail, on s'est rendu compte qu'il y a eu 10 cas de décès. Et tous ces cas de décès étaient infectés par le VIH. Du coup, donc, quand la varicelle survient chez l'adulte, il faut non seulement rechercher l'infection par le VIH, mais aussi faire attention à la survenue d'une pneumopathie variceleuse qui est la complication gravissime chez l'adulte et qui est souvent fatale.
Alors, docteur Mohamed Massiré Souma, si vous le voulez bien, je vais vous mettre en relation avec un auditeur de Priorité Santé. Cet auditeur, il s'appelle Augustin, il nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Augustin. Bonjour Augustin.
Au fait, bonjour.
Alors justement, vous avez une question liée à la relation entre le zona et le VIH. On vous écoute tout de suite.
Oui, bien sûr. En fait, parlant de ces pathologies, moi, j'ai contracté le zona depuis 2010. Et à cet effet, mon médecin m'a sommé de passer le test de dépistage de VIH-SIDA. Mais le test a révélé négatif. Alors, je demande comment est-ce que le zona est-il lié au VIH-SIDA?
Cette question d'Augustin.
Cette maladie présente-t-elle le VIH?
Alors, vous allez être rassuré par la réponse du docteur Mohamed Massiré Souma. Docteur Mohamed Massiré Souma, ce dépistage du VIH quand on a contracté un zona, c'est une mesure de prévention pour voir s'il n'y a pas une co-infection, mais il n'y a pas directement de lien entre les deux maladies. Est-ce que c'est bien ça?
Alors, on peut, dans un premier temps, répondre de cette façon. Mais il faut savoir que lorsque le zona survient sur un sujet jeune, sa valeur prédictive positive pour le VIH est très élevée. Elle tourne aux environs de 87%. Et c'est pourquoi, quand vous prenez 100 patients jeunes qui font le zona, les 87% sont associés. Mais ce n'est pas exclu qu'on ait un zona étant jeune et sans que ça ne soit associé par le VIH. Parce que c'est des maladies qui existaient bien avant l'avènement de l'infection par le VIH. Mais le péché serait de ne pas faire un test de dépistage pour un sujet jeune qui développe un zona.
Alors,
on peut le faire tant qu'il ne soit associé.
Augustin, vous avez développé votre zona en 2010. C'est à ce moment-là que vous avez fait votre test. Aujourd'hui, vous êtes toujours en bonne santé.
Oui, je suis en bonne santé.
Ben voilà, je pense que vous avez la meilleure réponse à votre question. Très bonne journée à vous, à l'écoute donc à N'Djamena au Tchad. Une dernière question, vous êtes dermatologue en général, c'est vous qui prenez en charge en Guinée ce type de pathologie, docteur Mohamed Massiré Souma, où les malades se dirigent généralement vers justement la médecine générale?
Oui, parfois les médecins généralistes prennent en charge ces pathologies. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'il n'y a pas de suite favorable, ces malades sont référés dans notre service. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a parfois certaines complications liées à la prescription de certains médicaments qui ne devraient pas être prescrits chez les enfants. Par exemple, quand vous prenez la varicelle, chez l'enfant, il est contre-indiqué, comme l'a dit le docteur Pascal, de ne pas prescrire l'aspirine. Parce que ça peut entraîner un syndrome grave qu'on appelle le syndrome de Reye, qui associe une atteinte hépatique et une atteinte nerveuse. Et donc, il arrive parfois que certains médecins généralistes mal informés prescrivent ce médicament chez les enfants. Parce que la varicelle entraîne la fièvre. Donc, pour baisser cette fièvre, les gens peuvent être amenés à prescrire l'aspirine qu'il ne faut jamais prescrire dans cette pathologie. Et en plus de ça, comme vous le savez, notre société reste très traditionnelle. Et donc, la médecine traditionnelle est souvent le premier recours des patients lorsqu'ils ont un problème de santé. Et ils peuvent utiliser parfois des décoctions ou des cataplasmes qui peuvent amener des complications locales, notamment des surinfections et parfois même des nécroses.
Et dans ce cas-là, c'est vous qui prenez en charge par derrière, justement, quand il y a eu ces mauvais usages de produits qui ont entraîné des surinfections, docteur Mohamed Massiré Souma.
Absolument.
Merci beaucoup hein, pour toutes ces explications. En tout cas, les auditeurs de RFI l'ont bien compris. Quand on a la varicelle, hein, on l'a entendu par, de la part de nos deux spécialistes, pas d'aspirine, c'est aussi simple que ça. On prend autre chose pour faire baisser la fièvre, mais en tout cas, pas d'aspirine. Je rappelle, docteur Massiré-Souma, que vous êtes dermatologue, vénérologue au CHU de Conakry. On vous retrouve, docteur Pascal Matelier-Fusade. Et on va retrouver les auditeurs de RFI. Nous sommes en ligne avec Abidjan, la Côte d'Ivoire. C'est Conan qui est avec nous. Et Conan nous pose sa question tout de suite. Bonjour Conan.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, j'ai ma petite soeur qui, il y a 2 ans, a eu le zona. Voilà, et quand elle a eu ça, il y a ma maman qui a demandé un remède pour soigner. C'est fini, mais il se trouve que régulièrement, elle a des démangeaisons. Et puis aussi, ça lui fait mal. Après, quand elle gratte, il y a des boutons qui sortent avec un liquide dedans. Donc, je ne sais pas si il y a une solution pour mettre fin à ça.
Ça veut dire que ce zona revient de façon récurrente. Il est récidivant, comme on dit?
Effectivement.
Votre réponse, docteur Pascal Matelier-Fusade, face à cette manifestation?
Alors déjà, d'une part, il est à noter que visiblement, cette jeune fille a eu une varicelle très tôt et un zona très très tôt puisque elle a 13 ans, donc c'est tout à fait remarquable. Alors c'est de récidiver un zona non, mais par contre probablement des douleurs qui sont persistantes. Alors comme a dit mon collègue de Conakry, il serait peut-être intéressant quand même, parce qu'elle est quand même très très jeune cette petite, de surveiller l'immunité en général, parce que c'est quand même pas banal. Et puis alors concernant les douleurs, donc là effectivement, c'est un effet secondaire du zona, d'avoir des douleurs persistantes qui peuvent durer des années. Alors, actuellement, la seule solution qu'on ait, c'est de donner des antidouleurs, donc plutôt du paracétamol d'ailleurs, à cette jeune fille, de telle manière à ce que les symptômes s'amenuisent et puis qu'elle soit moins gênée.
Voilà pour cette réponse. Merci beaucoup Conan pour cet appel d'Abidjan. On va maintenant rejoindre la République démocratique du Congo, Goma. C'est Deo Gracias qui est en ligne. Bonjour Deo Gracias.
Bonjour Priorité Santé.
On vous écoute.
Il y a 3 ans que je me réveille un matin avec des lésions cutanées sur l'hypochondre droit. Les boutons faisaient très mal. Et quand je les éliminais, bien entendu, j'ai dû consulter un généraliste qui m'a parlé de zona et m'a prescrit des antibiotiques plus la crème d'hydrocortisone. Après quoi, le bouton disparut, mais la partie concernée commençait à faire mal de l'intérieur. Je suis allé chez un interniste qui m'a prescrit Noxygène, Debrida et des multivitamines. La dose est finie, je me suis senti bien, mais aujourd'hui, les douleurs ressurgissent de façon intermittente. Mes questions sont les suivantes. S'agissait-il réellement du zona? Quel lien entre zona et infection d'estomac dont m'a parlé l'interniste? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui mettre fin à cette résurgence des douleurs? Merci.
On va essayer de vous répondre, Deo Gracias. Ce qu'on entend en tout cas, docteur Pascal Matelier-Fusade, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. L'une des complications majeures du zona, ce sont ces douleurs.
Oui, alors des douleurs persistantes, lancinantes, par à-coups, c'est-à-dire vous pouvez aussi passer une semaine avec des douleurs, 2 semaines sans rien, et puis à nouveau une récidive. Alors, chez cet auditeur, bon, il demande si effectivement c'était bien un zona. Alors là, rétrospectivement, c'est un petit peu difficile, parce qu'au départ, admettons que ce soit un zona, qu'il ait des douleurs résiduelles, pourquoi pas, puisque c'est partie des effets indésirables. Alors, concernant les douleurs à l'estomac, j'ai peut-être un peu plus de mal à faire le lien, parce que avoir des douleurs à l'estomac est quelque chose de quand même relativement fréquent. tout en dehors de douleurs liées aux zonas, parce que les zonas, ça reste quand même les douleurs qui vont être plutôt liées au niveau de la peau. C'est-à-dire, alors peut-être que les lésions de zona arrivaient à un endroit où ça pouvait toucher en regard de l'estomac, mais des atteintes de l'estomac pur, ça reste quand même, je pense, carrément exceptionnel. Donc moi, je conseillerais à ce patient de, si c'est des sensations de douleur et que c'est au niveau de l'estomac, de suivre les traitements qu'on lui avait recommandé son médecin, c'est-à-dire des médicaments à visée gastrique, comme j'ai vu le Debrida, qui sont des bons médicaments.
Même si cette douleur sur le long terme peut entraîner des phénomènes de stress qui peuvent générer peut-être aussi des crispations qui conduisent à tout cela.
Tout à fait. Donc je pense qu'en tout cas, pas d'inquiétude, hein, c'est toujours ça. C'est effectivement, on peut avoir toujours des effets indésirables, que ce soit lié à une maladie, mais en sachant que cette maladie, dans ce cadre-là, n'est pas grave, et que il faut toujours rassurer le patient et trouver la dose ou le médicament qui convienne sans trop donner d'effets secondaires.
Voilà, merci beaucoup, hein, Déo Gracias, pour cet appel de Goma en République démocratique du Congo. On va donner la parole à un tout dernier auditeur et vous allez voir, docteur Pascal Matelier-Fusade, et ben ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, cet auditeur, c'est Daniel à Brazzaville, au Congo. Bonjour Daniel, on vous écoute.
Bonjour madame. Bon, moi, mon problème, c'est qu'il y a presque 3 ans que ma femme développe l'herpès. Et que, bon, de temps en temps, ça disparaît, mais ça récidive. Donc, ça disparaît, ça revient. Et malheureusement, pendant les traitements qu'elle prend, ça donne pas grand-chose. Et souvent, quand ça disparaît un bon moment, elle se dit, bon, en fait, c'est juste simplement quand nous avons des rapports, elle se dit que, en fait, et que quand ça réapparaît, bon, elle dit que c'est moi qui suis à l'origine de ça et que ça vient de je ne sais où. Et que ça nous cause même des problèmes dans le foyer, quoi.
Docteur Matelier-Fusade, hein, question sur la contamination, question sur la fidélité. Il faut donc rassurer l'épouse de Daniel.
Oui, alors donc je suppose que l'épouse de Daniel a un herpès génital. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, malheureusement, il y a des patients qui ont des poussées d'herpès génital complètement asymptomatiques. Ce doit être le cas de Daniel, c'est-à-dire qu'il a des poussées d'herpès, mais rien de visible au niveau de ses organes génitaux. Et donc, de fait, lorsqu'il a des poussées asymptomatiques d'herpès, il peut très bien contaminer son épouse qui, elle, va avoir des lésions. Donc, c'est toujours très, très délicat parce qu'effectivement, j'en parlais, on peut avoir des soucis de couple et que, donc, il faut plutôt, je dirais, avoir confiance l'un dans l'autre pour assumer tout ça.
Merci beaucoup hein, de cet appel de Brazzaville, Daniel. Bonne journée à vous au Congo. Et merci à vous, docteur Pascal Matelier-Fusade, d'être venu sur RFI dans les studios de Priorité Santé pour répondre à toutes ces questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes dermatologue et allergologue à l'hôpital Tenon à Paris.
Priorité Santé sur RFI.
C'est le moment de vous retrouver, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on va parler de la prévention de l'ostéoporose. Alors justement, quelles activités sont plus recommandées que d'autres pour prévenir cette maladie qui atteint la densité osseuse?
Alors voilà, absolument Caroline, ce qui est très important de savoir, c'est d'abord que cet os est un tissu qui vit et qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. C'est-à-dire que l'os se détruit et puis il est reconstitué par les cellules, et ça de manière permanente. Un moment clé qui est essentiel, c'est l'adolescence. On sait que pendant cette période-là, c'est là où on va faire une construction osseuse pour atteindre ce qu'on appelle un pic de masse osseuse, entre 20 et 30 ans. Et donc, faire du sport à l'adolescence, c'est le meilleur moyen d'éviter l'ostéoporose lorsqu'on sera adulte. Alors, quels sont les sports et les activités qui permettent de faire ça? C'est tous les sports qui font des contractions musculaires et qui donnent des impacts sur l'os, des contraintes mécaniques sur l'os. Tous ces sports-là sont bénéfiques et à l'inverse, l'absence d'activité physique aura plutôt tendance à diminuer cette densité minérale osseuse.
Alors, vos conseils, docteur Sen, quelles activités doit-on privilégier justement pour prévenir l'ostéoporose?
Donc, la marche, le jogging, le fitness, entraîne cet impact, favorise l'impact au sol. Il faut aussi, pourquoi pas, travailler tout ce qui développe l'équilibre. Par exemple, le tai chi, c'est intéressant parce que ça évite de chuter et donc d'avoir une des conséquences de l'ostéoporose, qui est la fracture, bien sûr, par exemple, la fracture du col du fémur. Et puis, enfin, tous les sports qui développent la masse musculaire profonde, vous savez, ces petits muscles qui sont au contact, par exemple, de la colonne vertébrale, comme le yoga ou le pilates, sont aussi des activités qui sont intéressantes. Alors, si on devait résumer, il faudrait avoir une activité, par exemple, standard, un échauffement d'une quinzaine de minutes, puis après, avec des exercices qui font des impacts au sol, comme on l'a dit, par exemple, le jogging, et puis à la fin, on revient avec du stretching pour pouvoir récupérer et revenir à ses activités quotidiennes.
Alors, quel type d'activité, à l'inverse, doivent éviter nos auditeurs pour la santé de leurs os?
Ils doivent absolument éviter l'excès de sport. Parce qu'on sait que s'ils font du sport avec excès, eh bien, il va y avoir une réaction inverse, ils vont se déminéraliser. La restriction alimentaire aussi excessive n'est pas bonne pour l'os. Donc, il faut éviter, une fois aussi qu'on est ostéoporotique, de faire des activités à risque de chute, l'équitation, le VTT, le ski. Faire attention, bien sûr, à domicile aussi, de ne pas glisser sur un sol dérapant. Enfin voilà, en suivant tous ces conseils, nos auditeurs devraient pouvoir éviter d'avoir des effets néfastes liés à l'ostéoporose.
Merci beaucoup, docteur Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Demain, nous allons parler de l'explosion des surdoses mortelles d'opiacés aux États-Unis. Si vous voulez poser des questions, le numéro de téléphone de l'émission, 33 84 22 75 75. Vous pouvez, bien sûr, nous réécouter sur RFI.fr. Rubrique émission. À demain.
Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.